Laughter!
Bonjour et bienvenue dans Jaf ta mère numéro 91, l'émission de l'association Équité Parentale. Aujourd'hui, un spécial défense et gestion de fausses accusations depuis ses propres enfants. Nous l'avons vu la semaine dernière avec l'affaire Fabien, qui a d'ailleurs fait condamner l'État pour déni de justice. Il arrive parfois dans les crépages de chignon des droits de garde que, pour faire sauter tel ou tel avantage, ou pour punir l'autre, ou rentrer dans le conflit, et bien vous vous retrouvez un jour avec un enfant en bas âge qui porte des fausses accusations parce qu'il est sous influence. Nous aurons l'avis de Pierre Durand des Permanences de Dijon, qui a une vue assez exhaustive sur plusieurs années de l'environnement et des circonstances de tel cas. Monsieur Thierry Lavergne, pédopsychiatre et psychanalyste, nous expliquera comment réagir au niveau de l'enfant dans une telle situation et également au niveau de l'adulte, comment faut-il prendre et comment s'adapter à de telles circonstances. Maître Tapiero, qui est du barreau de Marseille, nous donnera des conseils juridiques. Mais tout de suite, en témoignage de la semaine, une histoire un petit peu similaire. Alors je la connais très bien, c'est pour ça que je me permets de la faire passer. C'est un ami personnel de 30 ans, dont vous aurez le prénom et pas le nom de famille, mais tout ce qu'il raconte est absolument vrai. Voilà ce qui peut se passer et voilà comment, en de telles circonstances, il peut vraiment parfois être possible de perdre un enfant. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
Voici maintenant le témoignage de la semaine.
Donc, témoignage de la semaine aujourd'hui avec Jean-Yves. Jean-Yves qui avait les droits, la moitié des vacances scolaires. Tout s'est passé bien. Et puis, tu m'as dit, tout a démarré aux vacances de la Toussaint. Tu as reçu un courrier.
Tout à fait. Donc, j'avais eu pour la dernière fois ma fille au mois de juillet pour les vacances scolaires. Elle est donc là pendant un mois. Elle est repartie chez sa mère, les vacances. Au mois de novembre, j'ai reçu une lettre comme quoi elle ne pouvait pas venir pour les vacances de la Toussaint parce qu'elle avait un anniversaire avec une copine de classe. Donc, j'avais accepté le fait qu'elle reste chez sa mère. Et après, j'ai reçu une convocation devant le juge familial pour me supprimer les droits de visite et d'hébergement.
Ah.
Donc, je m'y suis pris à l'avocat, je m'y suis rendu. Et là, j'étais devant le juge, les avocats. Donc, ma fille avait un avocat, mon ex-femme avait un avocat, moi j'avais un avocat. Ça faisait beaucoup de monde.
Elle avait quel âge, ta fille, déjà, là ?
Elle avait 10 ans.
10 ans.
Elle avait de rentrer en 6e.
Elle avait un avocat à 10 ans, d'accord.
Voilà. Donc, j'ai eu une confrontation, donc on était tous ensemble. On m'a lu une lettre que ma fille avait fait au juge, qu'au quoi je me moquais d'elle, que l'on avait fait manger pour le baptême de ma deuxième fille toute seule à la cuisine, donc les invités étaient à la salle à manger, que je me moquais d'elle parce qu'elle avait des poils sur l'avant-bras, qu'il fallait qu'elle se rase, etc. Donc, une grande lettre, et donc elle demandait de ne plus venir chez moi. Donc, face à tout ça, bon, j'ai réfuté les accusations. Et jamais j'étais face au juge avec ma fille pour m'expliquer. Donc je sentais que la discussion allait partir dans le sens où ma fille ne pouvait plus venir chez moi. Donc la décision du juge a été en quelque sorte un statu quo. C'est-à-dire que je pouvais la voir dans une cellule médiatisée, quelques fois par an, en résumé. Qu'il fallait que je communique mon numéro de téléphone pour qu'elle puisse me contacter, et c'est tout. Donc, j'ai bien senti, lorsque je l'appelais, que sa mère était à côté. Donc, j'avais une conversation qui était assez délicate, parce que ma fille était un peu stressée. Et de petit à petit, j'ai senti que le lien se brisait, puisque mon ex-femme, donc sa mère, était passée en liste rouge, que je ne pouvais plus avoir son numéro de portable, qui avait changé. Donc, de fil en aiguille, j'ai perdu complètement la trace de ma fille.
Et tu m'avais dit d'ailleurs, quand tu la voyais en résidence médiatisée, qu'elle parlait comme un robot, c'est ça ?
Non, c'est au téléphone. Je n'ai jamais voulu aller dans ces entrevues, mais je trouvais ça un petit peu, voilà, c'était pas condamné à quelque chose, quoi.
D'accord. Et donc là, donc les liens se sont vraiment distendus, se sont cassés quand elle avait quel âge ?
11 ans. 11, 12 ans.
D'accord, donc en fait, ça a pris un an ou deux ans et hop, il y a eu une rupture.
Mmh. Oui.
Et en fait, ça ne s'est jamais remis.
Jamais.
Jamais. Et aujourd'hui, elle a quel âge ?
Elle a 27 ans.
Elle a 27 ans et bon, parce que je connais l'histoire, hein, tu lui souhaites tous ses Noëls, tous ses anniversaires, tu as essayé plusieurs fois et elle n'a jamais voulu relier avec toi.
Jamais. La seule conversation que j'ai eue, ça a été par message. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle me reprochait. Donc elle m'a répondu que je devais le savoir. Donc malheureusement, j'ai soumis l'idée que c'était la naissance de sa sœur et de son frère. Elle m'avait dit que c'était pas ça.
D'accord. Donc en fait, on a des processus d'aliénation et l'enfant imagine des choses pour survivre et s'adapter à l'environnement où il est et fait des accusations. Alors, une énorme ironie de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier maintenant ?
Elle est psychologue.
D'accord. Bon. Est-ce que tu as l'impression que l'institution a défendu tes droits parentaux et ton lien avec ton enfant ?
Aucunement. On va dire, bon, en étant honnête, elle était complètement neutre. Et voilà. Donc il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu aucune aide. Aucune aide. Aucune.
D'accord. Bon. Merci.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Donc aujourd'hui avec Pierre Durand, vous vous souvenez, il anime les permanences de Dijon, il a une vue sur plusieurs centaines de cas qui sont venus le voir, lui demander conseil, il s'occupait aussi à une époque de suivre un petit peu certains dossiers pour l'association Égalité Parentale de Thierry Burger, et le contexte d'aujourd'hui est un contexte qu'il connaît. Bonjour Pierre, tu vas bien ?
Eh bien je vais bien et bonjour à tout le monde.
Bon, donc là ce qu'on vient de dire, ça résonne un peu pour toi ?
Alors moi, ce que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer... c'est que tout ce qui est, on va dire, attouchement, hein, genre de choses, c'est des choses que j'avais beaucoup il y a quelques années. Maintenant, on est passé à la mode de la violence. Donc systématiquement, quand un des deux parents, hein, pour généraliser, pas content, il fait des fausses accusations de violence. Il faut savoir que moi, les accusations de violence, aujourd'hui, ça représente une personne sur deux qui vient me voir. Voilà.
D'accord.
Pour mettre un petit peu le contexte.
Donc, c'est toujours le même principe, on prend l'audition de l'enfant, qui normalement devrait être une pièce privée de l'instruction, et on l'amène au JAF en tant que pièce pour essayer d'enlever des droits à l'autre, c'est ça hein.
Voilà, alors on n'a pas toujours l'audition de l'enfant, hein, parce qu'il y en a qui ne vont pas jusqu'à faire auditionner l'enfant, mais l'audition de l'enfant, c'est plus rare, c'est une fois sur cinq. En général, le parent se contente d'aller porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie, et il utilise cette pièce pour faire un référé, une procédure rapide devant le tribunal, pour dire, regardez, il y a des soucis, donc je demande à ce que les droits existants soient restreints. Et ça, c'est très classique, ça arrive fréquemment.
D'accord.
Dans le cas de l'audition de l'enfant, si un enfant est auditionné, alors là, normalement, c'est un peu spécifique, il y a une procédure spéciale, normalement, qui sont censés respecter, qui s'appelle la procédure Mélanie, où l'enfant est auditionné. À l'issue de ça, l'autre parent peut être auditionné très tardivement. Donc, il y en a où c'est très rapide, il y en a où c'est très tardif. En tout cas, il va être appelé par quelqu'un des forces de l'ordre, hein, un officier de police judiciaire en général, enfin, c'est même sûr, qui va le convoquer. Alors, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est que quand on se rend à cette convocation, il faut immédiatement demander à porter plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est la première chose à faire. Il faut savoir que les forces de l'ordre vont tout faire pour pas prendre la plainte. Et la plainte, il faut la poser à ce moment-là. Parce que sinon, dans la suite du dossier, on vous reprochera de pas l'avoir fait. On vous dira, finalement, vous n'avez pas porté plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est bien la preuve qu'il y avait des éléments. C'est-à-dire qu'on...
Oui, mais si c'est l'enfant tordu, qui se plaint, on ne peut pas porter plainte contre son enfant. S'il a été monté pour dire qu'on l'insulte ou qu'on se réveille la nuit, là...
C'est une dénonciation calomnieuse, dans tous les cas. Et cette dénonciation calomnieuse, elle est faite par l'autre parent. Donc on peut très bien porter plainte contre l'autre parent. Mais il faut porter plainte. Moi, c'est la première chose que je recommande de faire.
D'accord. Et ensuite, quand on arrive au JAF 4 semaines, 5 semaines plus tard, c'est-à-dire qu'en fait, l'instruction, on n'a pas pu être blanchi encore, ni rien du tout, et ils viennent avec ce papier.
Évidemment. Donc là. Et de toute façon, sur ce genre d'accusation de violence, etc., avant que l'instruction soit faite, il peut se passer un an, hein, ou deux.
Oui, c'est pour ça. Le référé JAF, c'est 4 semaines, ici, dans le quartier.
Oui, c'est ça, un référé, en général, c'est entre 15 jours et un mois. Donc, quand vous arrivez devant le tribunal, le juge aux affaires familiales, il y a une plainte en cours. Donc, lui, il va se couvrir. Et en général, ce qu'ils font quasiment systématiquement, c'est que dans le doute, ils vont procéder à des droits de visite médiatisés. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre dans un lieu neutre, un lieu où il y a une association, et vous ne voyez plus l'enfant que dans ce lieu-là.
Voilà, vous perdez la résidence alternée, ou alors vous ne voyez plus votre enfant du tout, sauf parmi les drogués et les violeurs, là, sous les caméras, avec des gens qui regardent comment se passe l'entretien.
C'est ça. Et ça se passe du jour au lendemain.
Hein. Ben
oui. Et du jour au lendemain, l'enfant... Alors après, ce droit de visite médiatisé, bon, ça va prendre un certain temps, hein, parce qu'avant, on est parti pour 6 mois, 1 an. Et puis au bout de 6 mois, 1 an, en général, c'est le juge des enfants qui prend la main et qui, lui, voit les parents une fois par an. Voilà. Et là, vous êtes, c'est encore un autre parcours judiciaire.
D'accord. Et on peut se protéger de ça, ou la manipulation est bien au point, il y a un succès à chaque fois.
Et ben moi, sur ce que je vois, c'est, enfin, en général, ceux qui font ce genre de choses, ils ont ceux ou celles, hein, plutôt celles dans l'occurrence, elles ont des kits en fait. Il y a des associations qui existent, qui leur fournissent des kits, donc tout fait, et elles arrivent directement avec la procédure toute faite. Donc vous avez malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Vous êtes bloqué puisque elles ont déjà, tout a été préparé en amont, donc vous arrivez, le référé, le juge, il prend pas de risque, et vous êtes parti sur 6 mois ou un an. Il y a malheureusement pas grand chose à faire.
D'accord.
À part bien argumenter lors de l'audience, essayer d'expliquer qu'effectivement c'est monté, mais c'est pas facile à faire, quoi. Il faut bien montrer qu'il y avait des éléments avant, que tout se passait bien, qu'il n'y a pas de raison. Qu'on n'a pas dit, c'est que très souvent, dans le kit qui est fourni, il y a un ou deux certificats d'un médecin complaisant qui va constater qu'il y a des bleus, des choses comme ça. On n'a jamais que l'audition de l'enfant, on a aussi des plaintes fictives. Pas des plaintes, des certificats de complaisance.
D'accord.
Et bon. Ouais.
Ok, merci. Merci, merci.
De rien, à bientôt. Au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Donc avec Thierry Laverne aujourd'hui pour l'avis du psychanalyste et du pédopsychiatre dans ce genre de situation. Monsieur Laverne, ça faisait longtemps. Bonjour, merci d'être revenu. Vous allez bien ?
Oui, je vais très bien. Bonjour. Très content de vous retrouver et très concerné aussi par la souffrance de ces enfants qui sont dans des situations inextricables finalement.
Alors, c'est parfait pour rebondir. Comment faut-il faire avec un enfant qui a vécu une pression qui l'a amené à effectuer un faux témoignage et des fausses accusations? On se rend compte plus tard que c'était pas vrai. L'enfant est tout penaud, il sait pas comment se placer ni sur quel pied danser. Comment est-ce qu'il faut faire?
Alors, il y a déjà une différence selon l'âge de l'enfant. Hein, c'est-à-dire qu'un enfant qui a moins de 6 ans vit les choses finalement de façon très magique, un petit peu comme un conte de fées, en disant certains propos, je me rends compte que j'ai beaucoup de pouvoir. Un peu comme une magicienne, ou comme une fée, ou comme une sorcière, ou comme un magicien, etc., etc. Hein, qu'on soit garçon ou fille. Et donc, ce monde de l'enfance pré-œdipien, c'est-à-dire avant l'âge de 6 ans, est un monde qui est peuplé comme ça de choses très fantasmatiques et très magiques. Et finalement, le conseil qu'on peut donner aux parents en difficulté, enfin dans le lien avec son enfant, c'est de discuter avec lui, justement, de ce que sont les contes de fées, de ce qu'est la magie et de ce qu'est la réalité, la différence qu'il peut y avoir. Pour les enfants plus grands, au-delà de 6, enfin entre 6 et 12 ans, enfin, de latence, c'est pareil. Je conseille de discuter avec l'enfant, mais la relation ne sera pas du même type. Ça va être une relation qui va être beaucoup plus axée sur la réalité des choses et sur les intérêts immédiats de l'enfant et sur la compréhension de ce qui se passe à la maison. Et pour les adolescents, eh bien, je dirais que là, il faut tenir compte de la posture adolescente qui va chercher les limites du garant parental et qui va interroger à travers ces façons de parler la capacité du parent à prendre sa place. Et donc, dans tous les cas, je conseille de tenir sa place. Qu'on soit avec une petite fille de moins de 6 ans ou un petit garçon de moins de 6 ans, qu'on soit avec un petit garçon ou une petite fille entre 6 et 12 ans qui est à l'âge de raison, comme on dit, hein, ou avec un adolescent opposant ou une adolescente opposante.
C'est-à-dire qu'on reste parent et qu'on continue de symboliser une certaine autorité éducative, même si elle a été mise très en défaut par le système durant la procédure?
On la rappelle, on la revendique et on dit « je tiens à garder ma place ». Oui, ma place de parent, bien sûr.
Et ça, on le dit à l'enfant?
On le dit à l'enfant, mais évidemment après il y a d'autres aspects qui sont importants aussi pour garder sa place de parent, c'est dans quel environnement on le fait. La plus grande souffrance de l'enfant, c'est la discordance éducative.
C'est-à-dire quand les deux parents ne sont pas d'accord entre eux sur la façon d'élever l'enfant.
Absolument,
d'accord.
Absolument. Et ça, traiter la discordance éducative, l'idéal est de pouvoir le traiter... comment dire, entre parents, mais quelquefois on est obligé de faire intervenir un tiers, qu'il soit juridique ou pas, hein, voilà, bien sûr.
D'accord. Et nous, en tant que parents, comment faut-il réagir? Parce que dans l'association et dans mon réseau, j'ai quand même nombre de personnes qui ont été victimes de ça, hein. Ils se retrouvent face à une accusation absolument insensée, un référé JAF dont on ne les prévient pas, ils sont avertis 10 jours avant l'audience, et ils arrivent, et par précaution, je dis bien par précaution, l'institution les envoie en résidence médiatisée et le lien avec leur enfant est attaqué. Et il peut y avoir parfois un sentiment de heurte, de blessure interne. Comment est-ce que le parent doit réagir et comment on peut surmonter cette chose-là ?
Alors, il y a deux aspects. Là, vous parlez de l'adulte.
Oui, hein, je parle de l'adulte. On parle de l'enfant, maintenant voilà. Je parle de l'adulte.
Oui, oui. Il y a deux aspects, voilà. Comment l'adulte va-t-il pouvoir gérer sa souffrance ? Alors ça, effectivement, ça peut justifier qu'il trouve un soutien associatif ou juridique, enfin un soutien de quelque forme que ce soit pour garder, une façon de réfléchir, une façon d'être adaptée. Hein. Et la deuxième chose, c'est dans sa relation à l'enfant, eh bien, il est de mon point de vue, très important pour la future relation et pour le, il est très important qu'il garde sa place éducative, sa place de garant parental. Je comprends que quelque chose ne va pas dans la relation entre toi et moi à travers ce que tu as dit, mais je maintiendrai ma place de père ou ma place de mère et je ferai en sorte que les choses puissent se résoudre.
D'accord. Ok. Et comment peut-on lutter contre un certain sentiment parfois qu'on peut avoir, qu'on m'a fait remonter, hein, de trahison, de heurte intérieure ? Il y a une douleur quand même, là, quelque part.
De trahison par qui ?
Bah, par l'enfant. L'enfant est allé dire à quelqu'un des choses fausses.
Alors, ça,
comment peut-on éduquer un enfant
tout,
après ça ? Oui, la relation de confiance est endommagée.
Oui, oui, oui. Tout de suite, je vais rebondir sur justement trahison par l'enfant. Parce que la relation est inégalitaire entre le parent et l'enfant. Le parent a l'autorité, l'enfant est mineur. Donc, on ne peut pas considérer, si vous voulez, qu'on est à égalité avec l'enfant. Et ça, c'est très important qu'en effet, chaque parent comprenne, bon, alors, quelle que soit la façon dont on se positionne, mais que chaque parent comprenne qu'il n'est pas à égalité avec l'enfant. Et donc, trahison par l'enfant, ça ne peut pas exister, puisque la trahison est faite par quelqu'un qui a le même niveau d'autorité que
oui,
soi.
Oui, vous avez raison, mais l'enfant n'est pas totalement conscient de ce qu'il peut dire. Il y a une partie imaginaire
l'enfant
et
l'enfant est
autre,
mineur.
Il est mineur et puis il s'adapte pour son environnement et autres. Mais ce sentiment peut être présent chez l'adulte.
Il est surtout mineur. Du fait qu'il est mineur, il est dépendant des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il n'a pas finalement le pouvoir de décision juridique, sauf quand il tient certains propos. Et donc, on peut penser que là, effectivement, ben, c'est un essai. Enfin, je ne vais pas reprendre ce que je disais tout à l'heure sur les trois âges, hein, mais c'est un essai finalement d'une parole. En tout cas, en aucun cas, le parent ne doit se sentir trahi par l'enfant. La personne qui peut éventuellement trahir sa confiance, c'est l'environnement adulte.
Tout à fait. Absolument, absolument, je comprends. Il faut réussir à passer par-dessus cela et éventuellement aller se faire aider par un psychologue.
Et se faire aider, absolument, voilà, se faire aider pour garder sa place de parent et comprendre ou accepter, ben oui, que l'enfant est mineur et qu'on est dans l'environnement éducatif, cadrant, rassurant, structurant, malgré les aléas, des conflits qui peuvent exister entre les deux garants parentaux.
D'accord.
J'ajouterais brièvement que finalement, si les choses sont expliquées à l'enfant, ça permet à l'enfant aussi de comprendre que l'autorité parentale est quelque chose qui se négocie, se discute entre adultes, et non pas entre enfants et adultes.
D'accord, ok. Ce n'est pas une négociation entre enfants et adultes. C'est l'adulte entre
oui.
eux qui négocie
oui,
la
oui,
façon
oui.
dont on s'occupe
oui,
de l'enfant.
Absolument, oui. En fonction de ce que l'enfant vit, de ce que l'enfant dit, etc., à l'écoute de l'enfant. Mais dans tous les cas, les décisions appartiennent aux adultes.
D'accord.
Y compris les décisions de suivi, y compris les décisions de soins, y compris les décisions pédagogiques, y compris etc., etc. quoi.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Thierry Lavergne, pédopsychiatre et psychanalyste en libéral sur Aix-en-Provence. Vous êtes encore en service public, docteur ou,
Alors non, j'ai arrêté. Là, je suis en retraite maintenant du service public.
D'accord.
Mais je continue à travailler pour la protection de l'enfance en associatif.
Bon, ben nous en remercions beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonne journée. Au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Maître Tapiro, aujourd'hui sur RLP 102.3, qui va nous donner le point de vue de l'avocat dans une telle situation. Bonjour, maître. Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Ben écoutez, ça va. Si vous êtes confronté, vous, à une histoire comme celle-ci, comment vous faites ?
Bah écoutez, dans un premier temps, se confronter à une situation aussi sensible que celle-ci, bon, le minimum, c'est de recevoir la personne, hein, c'est-à-dire le parent qui fait l'objet de telles accusations. On se passerait donc face à de tels faits, soit sur le base d'une enquête pénale, auquel cas il pourrait être convoqué, soit en audition libre et en matière délictuelle, vous avez le droit d'être assisté par un avocat, soit on se baserait donc sur le terrain civil, JAF, classique, sur la base d'une ordonnance éventuellement de protection. Bon, dans tous les cas, en règle et en en matière de droit des mineurs, les enfants peuvent être effectivement entendus par le juge qui statue ou par les services enquêteurs, les services de police. Bon, il y a le canal civil et il y a le canal pénal. Dans un cas d'un canal pénal, vous allez être convoqué, vous avez le droit à une défense et vous avez le droit éventuellement de faire des demandes d'actes, de demander ça soit à un juge d'instruction, soit si l'affaire devient très grave, soit la généralité à des enquêteurs. Voilà, droit de contester ce qui est avancé, de droit à ce qu'on puisse faire des expertises éventuellement. Vous avez tout un tas de droits pour essayer de voir réellement ce qui s'est passé. Si les faits sont avérés, bon, il y a des poursuites qui sont généralement engagées et puis effectivement, classiquement, le pénal tenant le civil, hein, ça rejaillit bien souvent sur l'aspect civil, mais c'est le pénal qui va poursuivre, c'est le pénal, c'est le tribunal correctionnel qui se chargera de cette question. Si les faits ne sont pas avérés, éventuellement un classement, mais la situation reste quand même très grave et vous avez toujours la possibilité de déposer plainte à votre tour pour dénonciation calomnieuse. D'accord ? Ou d'autres faits, si c'est il y a une instrumentalisation particulière de l'enfant, à ce moment-là, il y a toujours des qualifications diverses, procure au jugement, etc. Enfin, il y a diverses qualifications possibles envisageables, mais en tout cas, vous avez les moyens de vous défendre. Sur l'aspect purement civil, on dit dans le cadre d'un divorce, etc., on n'a pas le droit de faire témoigner directement, recueillir les lettres de l'enfant ou faire témoigner l'enfant. C'est le juge qui décide d'entendre éventuellement les enfants, de diligenter une enquête sociale, et c'est sur cette base-là qu'on recueille la parole de l'enfant, voire même par le truchement de faire désigner un avocat de l'enfant dans le cadre de la procédure. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez également des droits, que ce soit sous l'angle d'une audience en urgence, d'une ordonnance de protection ou autre, vous avez le droit de faire également valoir votre parole, parce que quand on est accusé, on a toujours le droit de se défendre au contradictoire de toutes les parties pour essayer de restituer la vérité. Pas forcément un juge qui est pour ou contre vous, vous avez un juge auquel on soumet la vraisemblance d'une situation grave, et c'est à vous, effectivement, avec certes au départ le faible moyen que vous avez, de pouvoir essayer de compter les accusations qui sont dirigées à votre encontre.
Certes, mais la première question qui va se poser, si vous voulez, c'est est-il normal qu'un parent aille faire témoigner sans preuve un enfant de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans afin d'avoir un procès-verbal où l'enfant se plaint en disant « vous voyez, monsieur est dangereux » et d'aller ensuite voir le JAF aux affaires familiales dans le but de retirer les droits du père. Déjà, est-ce que ça, c'est normal ?
Bah, écoutez, moi, ce qui n'est pas normal, c'est déjà de voir dans certains dossiers des pièces qui sont couverts par le secret de l'enquête, versés systématiquement dans les dossiers civils. Ça, c'est pas légal. Si vous n'avez pas l'autorisation de sortir, d'extraire une pièce pénale d'un dossier pénal, tant que l'enquête est en cours, évidemment, hein, que vous n'avez pas l'autorisation du procureur pour le faire, ce n'est pas possible.
Donc ça, c'est pas possible. Ça, il y a un secret de l'enquête, il y a un secret de l'instruction. La plainte. La plainte initiale est un élément confidentiel.
Le récépissé d'une plainte, effectivement, ça, on peut, effectivement, la victime peut l'obtenir. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Ça, elle peut le verser. Enfin, après, derrière, effectivement, ce qui se passe dans le cadre d'une enquête, ça concerne une enquête.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est l'instrumentalisation, parce que moi, je vais faire une plainte demain au commissariat, j'ai la plainte tout de suite.
Ah, bien
sûr. Je fais un référé au JAF, dans les 4 semaines, je suis entendu, mais la personne en face est uniquement soumise à une accusation, parce qu'il est évident que l'instruction ne sera pas bouclée, et le risque qu'il y a, c'est qu'entre-temps, je ne remets pas l'enfant à l'autre parent, j'inverse un peu les positions. Là, hein, mais vous avez compris le principe.
Bien sûr.
Et donc, j'arrive au JAF en disant, ça fait 4 semaines que je ne donne plus les enfants à l'autre parent parce que j'ai obtenu en 10 minutes ou en 1 heure cette plainte-ci, et puis ensuite on va éventuellement avoir un juge d'affaires familiales qui va mettre des mesures de protection en place au cas où, pour prendre ses précautions. On sait tous que les enquêtes elles mettent au moins 6 mois à se faire. Comment on fait pour se défendre pour ça, parce qu'on risque de ne plus voir ses gamins durant 6-8 mois là, en fait?
Alors évidemment qu'au début ça paraît un peu inextricable, ça paraît assez compliqué et ça paraît très simple en apparence. Sauf que il faut rappeler quand même les grands principes. Une plainte, c'est une plainte d'une victime présumée, dont acte. Mais durant toute la phase d'enquête et jusqu'à qu'il y ait un jugement définitif, vous êtes présumé innocent. D'accord ? Et de toute façon, vous n'allez pas être présumé ou pas innocent. Une plainte, elle suit une enquête. Donc, le premier réflexe à avoir quand vous êtes dans une audience civile, quand bien même il y a quelque chose de très conflictuel éventuellement avec l'autre parent, c'est d'exciper du fait qu'une plainte, ce n'est pas une condamnation. Et une plainte, c'est la parole de quelqu'un. Une plainte,
c'est la parole de quelqu'un qui va être soumis à vérification. Un enfant de 9 ans qui, lui, n'est pas entendu au JAF, peut-il effectivement faire une plainte comme ça? Parce qu'un enfant de 8-9 ans, ben je veux dire, quelqu'un qui arrive et qui dit « voilà, mon père m'insulte », par exemple. Est-ce que c'est normal qu'un enfant de 8-9 ans se retrouve seul dans un cabinet de police face à un enquêteur pour dire des choses pareilles? Est-ce que c'est normal?
À ce moment-là, quand il est entendu, quand l'enfant est entendu, c'est une audition. Une audition est par essence couverte par un secret, et cette audition ne doit pas se retrouver dans le cadre d'un dossier civil, sauf si l'enquête est terminée et qu'on a accès au dossier, ou alors que le procureur a donné l'autorisation à la victime, en l'occurrence aux parents du mineur, de pouvoir obtenir ces pièces-là. Donc, quand l'affaire est grave et étudiée, à ce moment-là, c'est du ressort du procureur, voire d'un juge d'instruction, et à ce stade-là, on ne peut pas se servir de ces éléments-là dans le cadre du procès civil, d'accord ?
D'accord, mais s'ils le font, parce qu'en l'occurrence, moi j'ai plein de cas, nous en avons tous, hein, où la déposition de l'enfant, même en bas âge, est communiquée à l'école, est communiquée au JAF, est communiquée partout. Comment on fait dans ces cas-là ?
Vous comprenez bien qu'à un moment donné, il y a une autre infraction qui consiste à, actuellement, en fonction de ce qu'on dit, de la diffamation ou pas, mais il y a aussi la possibilité d'une dénonciation calomnieuse, etc. Donc les gens déposent plainte, mais il y a des conséquences sur les plaintes. Plainte, dépôt de plainte n'est pas anodin. Ça, c'est le premier point à rappeler à toute forme de juridiction ou d'autorité. D'accord ? Ensuite, sur la base de ce qu'on retrouve en justice, si vous avez le droit à la parole en justice pour dire « bon, ben voilà, je veux une ordonnance de protection, je veux telle mesure, je veux telle mesure », vous aussi, quand vous êtes assigné, vous avez aussi la possibilité de faire des demandes. La première demande peut-être à faire dans ce genre de choses, c'est de dire « halte là, moi je conteste fermement tout ce que vous êtes en train de dire, vous avez des éléments de preuve ou pas ?» Mais en tout cas, vous avez effectivement la possibilité, vous aussi, de demander une expertise. Parce que si on en vient à vous produire un certain nombre de pièces qui ont un retentissement, vous aussi, vous avez la possibilité de saisir un juge, ou du moins un juge saisi, de certaines demandes d'instruction. Et le juge a des pouvoirs d'instruction. Voilà.
Bon.
Avec des appels possibles, effectivement. Voilà. Okay. Les juges, certes, dans le cadre de l'ordonnance de protection, c'est la vraisemblance d'une situation dangereuse, c'est ce que dit le texte. Néanmoins, qui dit vraisemblance, c'est on n'est pas au jugé. Il y a des éléments quand même qui doivent être saillants, mis en danger réel, accrédité par des éléments de preuve. Une simple plainte, bon, les juges ne sont pas dupes. Soit il y a une situation de dangerosité qui émane quand même de quelque chose, et à ce moment-là, si vous êtes confronté sur ce terrain probatoire-là, libre à vous également de faire valoir vos éléments si vous en disposez, ou alors de demander un certain nombre d'actes d'investigation au juge civil,
ouais,
en passant peut-être
en fait,
prioritairement par une expertise.
D'accord, donc pour conclure, en fait, à court terme, il n'y a pas grand-chose à faire à part préparer sa défense. C'est juste que la partie adverse, dans le cas d'une calomnie, d'une dénonciation calomnieuse, prend des risques à long terme, mais sur le très court terme, il n'y a pas grand-chose à faire.
Alors, sur le très court terme, vous répondez du réponse du berger à la bergère.
Voilà.
Vous êtes attaqué. Vous répondez par d'autres mesures de demande de vérification. Le juge est saisi d'un litige, d'une affaire. Vous avez également des demandes que vous pouvez lui formuler. Il y fait droit. Et s'il n'y fait pas droit et qu'il y a une décision qui est en déséquilibre, à ce moment-là, il y a toujours des recours possibles, en appel,
mais
etc.
Mais vous savez que la plupart du temps, il nous envoie en visite médiatisée ou alors il interrompt la résidence alternée et puis on ne voit plus l'enfant ou très peu ou de manière endommagée durant de nombreux mois.
Alors effectivement, il est très compliqué. Effectivement, chaque situation est spéciale. Chaque cas d'espèce est spécifique. Il y a effectivement des situations qui se multiplient, qui se ressemblent, dont la coloration est systématiquement la même. C'est assez agaçant d'ailleurs, mais voilà, et vous êtes confronté en plus à une justice qui est un petit peu confrontée à un engorgement total, et donc on va toujours un petit peu quelque part à la simplicité et à ce qui nous paraît le plus évident. Et effectivement, dans ces cas-là, il faut aussi être en mesure de pouvoir asseoir sa défense et faire valoir ses droits, parce que le droit à la vie privée et familiale, c'est un droit fondamental, et le juge que vous avez en face doit répondre de ce droit fondamental, c'est la Constitution qui le dit, pour être très précis, l'article 66. C'est lui le gardien des libertés fondamentales et c'est lui qui doit arbitrer au plus juste d'une situation, encore plus si c'est une situation préoccupante.
Très bien. Merci maître, merci beaucoup. Maître
Tapiero,
disponible au barreau de Marseille, hein, si je ne m'abuse.
Exactement.
Très bien.
Exactement.
Merci beaucoup. Au revoir.
À votre disposition, au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
J'ai